Pendant les trois premiers siècles, après la venue de notre Seigneur, les chrétiens souffrent des persécutions terribles. Rome, maîtresse du monde, est gouvernée par des empereurs païens qui adorent les faux dieux. Ils unissent toute leur rage pour étouffer l'Église naissante dans le sang de ses enfants. Ce n'est pas par milliers, mais par millions que les chrétiens meurent martyrs, en témoignant leur foi au milieu des plus cruels supplices. Nous sommes en l'an 254. Le cruel empereur Valérien règne sur l'immense empire romain. Il partage le sceptre avec son fils Gallien. Après Néron, Dèce et bien d'autres tyrans, c'est une nouvelle vague de persécution qui commence pour l'Église. Mais le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Les fidèles se multiplient rapidement dans la ville même où les saints apôtres Pierre et Paul ont versé leur sang pour Jésus-Christ. Ils s'enferment dans leur maison pour prier, car la loi romaine interdit à quiconque d'être chrétien sous peine de mort. À l'extérieur, le signe qui les fait reconnaître comme disciples de Jésus, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Leur charité s'exerce de mille manières. Ils partagent leurs biens, secourent les pauvres, prennent soin des infirmes et des vieillards. Si bien que les païens qui les rencontrent dans la rue disent d'eux : ceux-là, voyez comme ils s'aiment. Mais ils n'ont pas le droit de se réunir et de prier ensemble. Alors, pour célébrer le sacrifice de la messe, ils se cachent dans les catacombes, ces immenses cimetières souterrains creusés dans la roche volcanique. Ces innombrables galeries, longues de plusieurs centaines de kilomètres, sont bordées de tombes, étagées les unes sur les autres. Là, les fidèles jouissent d'une relative sécurité, car les cimetières étant sacrés, les soldats hésitent à y pénétrer. Du fond de ce refuge obscur et silencieux, le pape Étienne continue à diriger l'Église avec un zèle infatigable. Il soutient la foi des fidèles, baptise les païens convertis, administre les sacrements, prêche et enseigne la doctrine de Jésus-Christ. Or, parmi les enfants qu'il instruit pour devenir prêtre, se trouve un garçon de 15 ans nommé Tarcisius. Le saint pontife, intrépide défenseur de la foi, bénit les enfants et leur dit : vous ne devez pas seulement sauver votre âme, mais aussi celle des autres. Si vous avez un ami ou un parent païen, vous devez le convertir. Soyez des apôtres. Ainsi, Tarcisius est formé dès sa jeunesse à la pratique des vertus. Bientôt, Tarcisius est reçu à l'ordre d'acolytes à cause de sa grande foi et de sa piété. Il est choisi pour être le ministre du pape Étienne. Lorsqu'il sert la messe, il n'oublie jamais de prier et de communier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Grâce à l'ardeur missionnaire du pape, jointe aux prières des fidèles, les conversions se font de jour en jour plus nombreuses. Un jour, un chrétien nommé Hippolyte amène au pape sa sœur Pauline avec son mari Adrias et leurs deux enfants qui sont païens. Le pape les reçoit dans l'église comme catéchumènes afin de les préparer au baptême. Car les adultes ne sont baptisés qu'après avoir été instruits des vérités de la foi. Ainsi, pendant que le pape enseigne les parents, Tarcissius apprend le catéchisme aux enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 13. Après avoir éprouvé la foi et la fidélité des nouveaux convertis, le Saint-Pontife les fait baptiser. Les deux enfants reçoivent les noms de Néon et Marie. Néon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme Adrias et Pauline sont très riches, ils décident de mettre en pratique cette parole de Jésus. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. À peine rentrés chez eux, ils distribuent tous leurs biens aux pauvres. Mais le bruit de cette générosité se répand à travers la ville, jusqu'aux oreilles de l'empereur. Or, Valérien a un grand besoin d'argent. Les dépenses de la guerre, le luxe de ses palais, ont creusé un trou dans le trésor public. Il appelle son favori Martien, un homme sans scrupules qui lui sert de conseiller. Viens, Martien, j'ai à te parler. À ton avis, comment faut-il faire pour enflouer les caisses de l'Empire ? Martien, avare et jaloux, veut tirer profit de la situation. Il excite la haine de l'empereur contre les chrétiens par des calomnies. Tu vois ce que font les chrétiens ? Ils sont riches. Ils veulent révolter le peuple contre toi. Fais-les arrêter et empare-toi de leur fortune. Sur ces entrefaites arrive un certain greffier nommé Maxime. Il se réjouit de ce plan diabolique. Ajoutant à l'infamie, il décide de se faire traître pour dénoncer les nouveaux chrétiens. Je vais me déguiser en mendiant et je t'indiquerai ceux qui sont les plus généreux. Cette idée plaît fort à l'empereur et à son favori. Sitôt dit, sitôt fait, Maxime déchire ses vêtements et le voilà qui parcourt les rues dans les beaux quartiers de Rome. Il mendie son pain en boitant lorsqu'Adrias, revenant des catacombes, vient à passer.
Pour l'amour de Jésus-Christ en qui je crois, ayez pitié de ma misère.
rempli de compassion à la vue du malheureux. Adrias lui demande de le suivre. Après avoir traversé un dédale de ruelles, ils arrivent tous deux devant une riche demeure. D'un geste généreux, Adrias invite le faux mendiant à entrer chez lui. Soyez le bienvenu dans ma maison. En accueillant les pauvres, c'est Jésus lui-même que je reçois. Mais le bon Dieu veille sur ses fidèles serviteurs. À peine Maxime est-il sur le seuil de la porte, qu'il ressent en lui comme un feu qui le dévore. Effondré sous le coup de la douleur, il se prosterne à terre en s'écriant « Délivre-moi, je suis un traître, prie pour moi !» N'écoutant que ce bon cœur, Adrias joint pieusement les mains et élève son âme vers le ciel. Il demande miséricorde pour son ennemi. Seigneur Jésus, pardonnez-lui, car il ne sait ce qu'il fait. À la prière d'Adrias, les douleurs du malheureux cessent et Maxime se convertit. Peu après, il est baptisé par le pape Étienne. Mais Valérien est furieux de ne pas revoir son faux mendiant. Il envoie une troupe de soldats pour l'arrêter chez lui. En faisant irruption dans sa maison, il le trouve en prière, agenouillé sur le sol. Mon Dieu, merci d'avoir effacé tous mes péchés par le baptême. Maintenant que je vous appartiens, faites de moi ce qu'il vous plaira. Maxime étant amené devant l'empereur, dans une colère épouvantable, il donne l'ordre de le jeter aussitôt dans le Tibre avec une pierre au cou. Du haut du pont, les soldats regardent, l'air amusé, les remous faits dans la rivière. Tu as vu ? Ça y est, maintenant il a cessé de respirer. Hé hé ! Tant pis pour lui, ça lui apprendra à être chrétien. Mais entre-temps, Valérien, sur les conseils du fourbe martien, a fait interroger les pauvres de la ville. Ayant appris par eux d'où venait l'aumône, il fait enfermer Hippolyte, Adrias, Pauline et leurs deux enfants dans un sombre cachot de la prison. Mais le bon Dieu ne laisse pas sans consolation ses prisonniers. Profitant de la nuit, le jeune Tarcissius s'introduit dans la prison. Il leur apporte Jésus hostie, le pain des vierges et des forts, pour leur donner le courage d'affronter la mort. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle. Et quand vous serez au ciel, priez pour moi, car je veux être prêtre et martyr de Jésus-Christ. Le lendemain, les prisonniers sont conduits devant le préfet Secondien. Assis sur son trône, il les interroge d'un ton plein de dureté.
Dites-nous où vous avez mis votre argent ?
Adrias s'avance courageusement pour répondre.
Il appartient aux pauvres, c'est-à-dire à Dieu et non à l'empereur. À cette réponse, le préfet ne peut cacher sa colère. Il en vient aux menaces pour les intimider. Si vous refusez de brûler de l'encens à l'autel de Minerve, vous serez torturés. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dit fièrement Hippolyte à son tour. Alors, ne retenant plus sa fureur, le préfet ordonne à ses soldats de les conduire à la salle de torture. Là, ils sont flagellés jusqu'au sang par les bourreaux, tant et si bien que Pauline expire sous les coups. N'arrivant toujours pas à leur faire renier la foi, le préfet condamne les deux enfants à mourir par le glaive. Néon et Marie ont la tête tranchée sous les yeux de leur père. Mais sa fermeté n'en est pas ébranlée. Soyez courageux, mes enfants, le martyr nous conduit tout droit au ciel. Bientôt, j'irai rejoindre vos âmes innocentes au paradis. Menaces, promesses, tortures, rien n'y fait. Hippolyte et Adrias restent inébranlables dans la foi. Si bien que 8 jours après, le préfet exaspéré les fait conduire enchaînés sur le pont Antonin. Là, devant toute la foule, au milieu de laquelle se trouve Tarcisius, les bourreaux laissent libre cours à leur cruauté. Ils les battent sauvagement jusqu'à la mort, avec des fouets armés de plomb. Puis ils abandonnent leurs cadavres sur la route pour servir d'exemple aux chrétiens. N'écoutant que son courage, Tarcisius vient pieusement s'agenouiller auprès des 5 corps, déchirés par les lanières meurtrières. Joignant ses petites mains, il fait cette sublime prière. Seigneur, donnez-moi la force de mourir martyr. Pendant ce temps, Valérien, ne trouvant pas l'argent qu'il cherche, redouble de fureur. Sur la vie de Martien, il publie un édit qui ordonne de rechercher le pape et les clercs de l'Église pour les faire périr dans les supplices.
C'est une nouvelle persécution pour nous. Tais-toi, on va nous faire reconnaître.
Quelques mois après, l'insécurité s'aggrave pour les chrétiens. Ils sont dénoncés par les païens, trahis par les apostats. On les poursuit partout, jusque dans les catacombes. Un jour, alors que Tarcisius sert la messe du pape, apparaît au loin dans le noir une inquiétante lumière. Soudain, avant que quiconque ait pu donner l'alerte, une bande de soldats fit irruption dans la cachette des chrétiens. Méprisant le culte sacré des morts, ils ont envahi les cimetières souterrains,
armés de leurs casques et de leurs lances. Surpris en pleine cérémonie, les fidèles n'ont plus le temps de s'enfuir. Tous sont faits prisonniers. Et maintenant, ils avancent à travers les longs couloirs sombres, sous l'œil vigilant du centurion romain. Cette fois, c'est devant l'empereur en personne qu'ils sont conduits. En voyant enchaîner devant lui le chef de toute l'église, Valérien ne peut cacher sa joie. Dans son orgueil, il commande aux gardes. Faites entrer le pape Étienne dans le temple de Mars et faites-lui offrir un sacrifice à la divinité. Gardant toute sa sérénité, le saint patriarche aux cheveux blancs lève les yeux vers le ciel. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il fait tout haut cette prière. Seigneur Dieu, détruisez ce temple où le démon trompe le peuple par ses superstitions. Aussitôt, le ciel s'assombrit et un violent orage se déchaîne. Un éclair fulgurant s'abat sur le temple païen, suivi d'un magistral coup de tonnerre. Les soldats, saisis de frayeur, s'enfuient en tous sens. Profitant de la torpeur générale, le pape et les clercs retournent en hâte dans les catacombes, suivis de près par les fidèles. Dans leur cœur, tous remercient Dieu de ce miracle qui les a sauvés d'une mort certaine. Après s'être enfoncé au plus profond des souterrains, le vénérable pontife rassemble les fidèles et leur dit « Mes enfants, la persécution ne fait que commencer. Rappelez-vous la parole de notre Seigneur. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous enlever la vie du corps, mais seulement ceux qui peuvent perdre vos âmes. » À présent, la persécution devient chaque jour plus sanglante. Partout, les chrétiens sont pourchassés, torturés et mis à mort. L'empereur a donné l'ordre de prendre le pape Étienne, mort ou vif. Peu de temps après, le 2 août, les soldats de Valérien pénètrent à nouveau dans les catacombes. Après avoir cerné les issues, ils s'engagent en force dans le cimetière de Calixte. Or, c'est là justement que le chef de l'Église s'est retiré pour continuer son ministère. Bientôt, il trouve le pape qui, ayant achevé la messe, s'assied sur le trône épiscopal pour faire son action de grâce. Alors, sans respect pour la dignité du vénérable pontife, les soldats se jettent sur lui et lui tranchent la tête. En l'absence de son chef, l'Église continue gouvernée par 3 prêtres et 7 diacres. Parmi eux se trouve le saint prêtre Dionysius. Le 15 août, alors qu'il célèbre le saint sacrifice de la messe, il se retourne vers l'assistance au moment de la communion. Levant les bras vers le ciel, il est dit d'une voix grave: mes frères, lequel d'entre vous se sent assez courageux pour porter l'hostie sainte aux prisonniers qui seront livrés aux bêtes demain? Tarcissius, qui sert la messe à ses côtés, se lève aussitôt. Il se présente devant les prêtres en le suppliant: père, je vous en prie, faites-moi cet honneur. Ému d'admiration, Dionysius le fixe longuement des yeux. Tu es courageux, mais tu es trop jeune, mon enfant. Puis levant son regard vers l'assistance, il voit un officier chrétien sortir la main haute du milieu des fidèles. C'est Quadratus, commandant de la garnison romaine, qui se porte volontaire. Moi, père, laissez-moi me charger de cette mission dangereuse. Après un instant d'hésitation, le prêtre se tourne à nouveau vers Tarcissius. Mon enfant, tu es plus faible, c'est vrai, mais tu passeras plus facilement inaperçu. Que Dieu te protège. Et digne Dionysius dépose la petite boîte contenant les saintes hosties entre les mains de l'acolyte en lui disant: garde avec fidélité ces dons sacrés de Dieu. Après avoir enveloppé avec respect son précieux trésor dans le haut de sa tunique, Tarcissius serre ses bras contre son cœur. Il sort des catacombes sans se douter qu'il marche vers la mort. Évitant les remparts pour échapper à la vue des persécuteurs, il s'engage sur la voie Appienne, une grande avenue des faubourgs de Rome. À la fraîcheur des catacombes succède maintenant un soleil de plomb. Il est déjà midi lorsqu'une dame romaine, le voyant passer devant sa maison, lui offre l'hospitalité. Mon enfant, pourquoi marchez-vous si vite? Entrez chez moi, vous reposez un peu. Il fait si chaud. Mais Tarcissius ne connaît que son devoir. Il refuse avec politesse. Merci, madame, pas maintenant. On m'a confié une affaire urgente. Tout à l'heure, peut-être, à mon retour, je m'arrêterai chez vous. Et il continue sa route en direction de la prison. Tout en marchant, Tarcissius pense aux condamnés qui vont être broyés par les lions, et il prie Dieu qu'il serre sur son cœur. Jésus hostie, je vous en supplie, donnez-leur la force de mourir martyr. » Il arrive ainsi jusqu'à la place publique. Il y a là, devant la fontaine, une bande de garçons païens. Ils organisent un jeu sous la direction de Quintilius, le plus âgé d'entre eux. L'équipe des Horaces, vous mettez à ma droite, et à ma gauche, l'équipe des Curias. Bon, voyons voir si le compte y est. Non, il en manque un dans une équipe. Mais tiens, voilà justement Tarcisius. Ohé, Tarcisius, où vas-tu si vite? Viens jouer avec nous. Il y a une place dans l'équipe des Horaces. Et les gamins accourent auprès de lui. Relevant la tête, Tarcisius répond avec tout son sérieux. Tu es bien gentil, Quintilius, mais je n'ai pas le temps de jouer maintenant. Je suis chargé d'une commission importante. Plus tard, je veux bien. Et il veut continuer sa route. Mais les autres font barrage devant lui et l'empêchent d'avancer. Bah, il n'y a pas de commission qui tienne. Reste donc jouer avec nous. Je vous en prie, mes amis, ne me retenez pas, laissez-moi passer. À ce moment, Quintilius le saisit par le bras. Dis-moi voir, qu'est-ce que tu portes comme ça? Et il tend la main vers la boîte sacrée que l'enfant cache sur sa poitrine. Tarcisius fait un bond en arrière pour se dégager.
Laisse-moi, ça ne te regarde pas.
Mais Quintilius la crippe de plus belle en le menaçant.
On sait que tu es chrétien. Si tu ne dis pas ce que tu portes, on te dénoncera à l'empereur.
À ces mots, Pétilius, le plus jeune de la bande, intervient à son tour.
Et moi, je vous parie qu'il porte le cœur d'un enfant. Mon père m'a dit que les chrétiens en mangent pour avoir le courage de mourir martyr. Cette réflexion déclenche une avalanche de cris d'horreur mêlés de rires sarcastiques.
Ces clameurs attirent l'attention d'un petit groupe de soldats chargés de l'ordre sur la voie publique. En entendant les paroles des enfants, ils se retournent et s'approchent. Tous dénoncent Tarcisius en le montrant du doigt. Les soldats vont droit sur lui, l'air menaçant.
Est-ce vrai que tu es chrétien ?
Oui, je le suis,
répond sans hésiter le courageux enfant. Et serrant ses mains sur sa poitrine, il puise dans l'ardeur de sa foi une force nouvelle. Alors, les soldats se saisissent de lui et le tirent en tous sens. L'enfant résiste avec une énergie surnaturelle. Ils veulent l'obliger à desserrer les mains, mais c'est en vain. Une force extraordinaire les a comme soudés l'une à l'autre. Furieux de ne pouvoir arriver à leur fin, les soldats en viennent au coup. Pour lui faire lâcher prise, ils frappent sans pitié l'héroïque enfant à coups de pierres et de bâtons. Les petits païens, entraînés par l'exemple, se joignent à eux pour ce cruel jeu de massacre. Au bout d'un moment, Tarcisius s'écroule sur les dalles de la route, gravement atteint à la tête. Mais ses mains sont toujours pressées avec amour sur sa poitrine. De ses lèvres jaillit un grand cri.
Mon Dieu, plutôt mourir que trahir. Excité encore plus par la fermeté invincible de l'enfant, les barbares s'acharnent sur lui avec une rare violence. Accablé sous la grêle de coups, Tarcisius trouve encore la force de faire cette prière. Seigneur Jésus, ne permettez pas que votre saint corps soit profané. Ayant dit ces mots, il s'évanouit, baignant dans son sang. Après avoir assouvi toute leur rage sur l'innocente victime, les soldats essayent encore de le fouiller. Mais ils ne réussissent toujours pas à dégager ses bras qui retiennent Jésus-Eucharistie, mille fois plus cher que sa propre vie. Pendant que les soldats irrités et vaincus poussent d'horribles blasphèmes, un officier romain débouche au coin de la place. C'est Quadratus, qui est inquiet pour Tarcisius et s'est mis à sa recherche. Ameuté par les bruits de cet attroupement insolite, il accourt d'un pas alerte. En voyant l'officier au casque panaché, les soldats et les enfants sont pris de panique. Ils s'enfuient à toutes jambes, abandonnant sur le pavé leur proie ensanglantée. Ayant reconnu l'acolyte, Quadratus se précipite. Mais il est trop tard. Le cœur brisé de douleur, il s'agenouille près de l'enfant et le soulève doucement dans ses bras. Le sang coule de ses blessures, mais dans sa poitrine, il sent son petit cœur qui bat. Mon Dieu, merci, il a encore un souffle de vie. Rassemblant toutes les forces qu'il lui reste, le jeune martyr ouvre les yeux une dernière fois en murmurant. Ne vous occupez pas de moi, mais prenez soin des hosties que je porte. Après cet acte de sublime générosité, il retombe inconscient entre les mains de l'officier. Ému jusqu'aux larmes, le vaillant Quadratus emmène l'enfant dans ses bras. Sa tête meurtrie repose avec confiance sur l'épaule robuste du soldat. Tout en priant Dieu, il retourne d'un pas rapide jusqu'à la voie appienne. En le voyant passer, la dame romaine ouvre la porte de sa maison. Mon Dieu, c'est l'enfant que j'ai vu tout à l'heure. Que lui est-il arrivé? Noble dame, c'est parce qu'il est chrétien qu'ils l'ont assassiné. Ces paroles, jointes au regard profond de l'officier, font entrer dans le cœur de cette femme la lumière de la foi. Dès ce moment, elle devient chrétienne. Entrez chez moi, il faut le soigner. Après avoir couché Tarcisius sur un divan, on lave ses plaies, mais c'est en vain. Ses blessures sont mortelles. Épuisé de son sang, Tarcisius expire le soir même, victime de son héroïque fidélité. Il porte sur son cœur, jusqu'à la fin, le trésor qu'on lui a confié.
Après avoir embaumé son corps innocent, on l'enveloppe dans un linceul blanc. La nuit, à la lueur des torches, on le descend avec respect dans les catacombes. Pendant que sa dépouille mortelle va rejoindre celle de milliers de martyrs, son âme immortelle jouit déjà de l'immense gloire du ciel. Et le prêtre Dionysius, en ouvrant le linceul, voit sur le visage du bienheureux martyr un reflet de son bonheur éternel. Sans peine maintenant, il écarte les mains de l'enfant. Il ne peut retenir ses larmes lorsqu'il découvre sur son cœur les hosties consacrées, intactes et inviolées. Et tandis que le vaillant officier repart à les porter aux prisonniers, les fidèles prient et pleurent d'admiration devant le tombeau du martyr de l'Eucharistie. Ces précieuses reliques se trouvent aujourd'hui dans l'église Saint-Dominique à Naples, où elles sont toujours l'objet d'une très grande vénération. Saint Tarcisius, martyr de l'Eucharistie, avec un courage héroïque, vous avez donné votre vie pour Jésus hostie. Que votre exemple et vos prières nous aident à rester fidèles jusqu'à la mort à notre Seigneur Jésus-Christ.